10h41 minutes dans le point de Max à Boulevard 102.1. Mathias Turcotte, Max Larouche avec vous jusqu'à midi. Mathias, on va aller faire rapidement un petit tour dans la circule.
Oui, ben je veux juste vous rappeler à la sortie des ponts là, en ce moment. Si vous voulez prendre l'autoroute du Plessis en direction nord, c'est impossible de ce que je comprends. Là, la sortie qui est fermée, ça va être jusqu'à 15h aujourd'hui. Un peu plus tôt, je parlais d'une panne sur Capitale, c'est réglé. Juste vous signaler là, que le gros du trafic, c'est surtout du côté des villes. 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est très difficile comme à l'habitude.
On a appris hier le départ de Mme Christiane Germain comme présidente du Conseil d'administration de Santé Québec et elle semble partir avec le sentiment du devoir accompli. C'est pas ce qu'on semble voir ressortir, disons, du plancher des vaches au niveau du système de santé au Québec. Pour en parler, le président de la Fédération de la santé du Québec, Derek Cyr, est au bout du fil. Monsieur Cyr, bonjour.
Bonjour.
Vous dites que le portrait de Santé Québec est loin d'être aussi positif que le prétend la présidente démissionnaire du ECA, Christiane Germain. Sur quoi vous entendez pas précisément?
Bien, lorsqu'on dit qu'on a diminué les listes d'attente des chirurgies, oui, c'est vrai, mais à fort prix, en utilisant le privé. Donc, je vous donne un exemple, là, une chirurgie dans le système public, qui est une hanche, peut coûter à peu près 20 000 $ mais quand on le fait faire à l'externe, ça peut être entre 25 et 35 000 $ Donc, le contribuable, au fond, paye plus avec ses impôts, ne paye pas directement quand il faut faire sa chirurgie, mais coûte beaucoup plus cher au système public des taxes, ainsi de suite, pour pouvoir avoir sa chirurgie. Donc, au bout du compte, oui, on a diminué certaines listes, mais pas l'ensemble des listes. Et pour vous dire aussi, à notre fédération, on a négocié un montant de 2,6 millions pour réduire les listes de chirurgie dans le système public. Pour les chirurgies de plus d'un an en endoscopie, les attentes, ainsi de suite. Et ces montants-là ne sont pas utilisés en ce moment parce qu'on préfère aller au privé à place d'utiliser dans le système public ces montants-là.
On pourra y revenir tantôt, là, l'utilisation du privé par rapport au Journal de Québec qui nous apprenait la semaine passée qu'on est pas mal encore très dépendant du privé, comme vous le dites. Mais dans le cas, pour revenir à Mme Germain, là, qui quitte son poste de présidente du CA de Santé Québec, pourquoi elle a quitté, selon vous? Est-ce que, parce que, tu sais, je le mentionnais, là, elle semble quitter avec le sentiment de devoir accompli, puis avec Santé Québec, on a réussi là, à changer le système de santé au Québec, alors que la vision de bien du monde, c'est pas nécessairement ça. Pour vous, est-ce que, puis à vos yeux, puis là on spécule, on le saura peut-être jamais, mais sentez-vous que Mme Germain a peut-être d'autres raisons pour avoir quitté son poste?
Bien, c'est sûr que, tant Mme Germain que Mme Biron viennent du système encore privé, puis gérer des hôtels, parce que dans la famille Germain, on est beaucoup plus sur des hôtels, c'est pas la même chose que gérer un système de santé. Hein, on est tous d'accord, là. Fait que peut-être qu'elle a frappé un mur sur la vision qu'elle avait de comprendre que des chambres d'hôtel, là, c'est pas des êtres humains. Faut être capable de donner un bon service à la population. On a l'impression qu'elle quitte sans avoir amélioré. Les urgences sont jamais aussi débordées que maintenant depuis que Santé Québec est présent. Je vous dis aussi qu'il y a eu des recommandations de Santé Québec du conseil d'administration où Mme Biron de mettre des directeurs de fluidité dans certains établissements. Les temps d'attente n'ont jamais été aussi longs sur une civière. Donc, le fait d'arriver à l'urgence, d'être couché sur une civière, d'être vu par le médecin, d'avoir un diagnostic, les examens et une hospitalisation au besoin, bien, en moyenne, il y avait peut-être, c'était entre 16 et 17 heures sur les civières que les patients passaient. Là, on est rendu à des 19 et 20 heures. Donc, malgré les directeurs de fluidité, les idées de Santé Québec, les gens attendent plus que jamais sur une civière à l'urgence.
Oui, bien, justement, cette déclaration-là de Mme Germain avant son départ, est-ce que ça témoigne à nouveau de la déconnexion qu'on sent un peu de Santé Québec vis-à-vis la réalité réelle que vivent à la fois les employés du terrain et les Québécois qui doivent avoir accès à ces services-là?
Oui, on a l'impression qu'on trafique un peu les chiffres pour paraître bien. On sait que Santé Québec, c'est une organisation qu'on a créée pour essayer qu'il y ait moins de pression sur le ministre de la Santé ou le ministère, mais quand on pose des questions à Santé Québec, je peux vous dire que j'ai des rencontres au niveau national, moi, puis quand on pose des questions, c'est toujours « Ah, non, il faut regarder avec le ministère. Ah, non, ben, on va attendre la décision des projets de loi. Ah, non, on peut pas. » Fait qu'il y a toujours un volet de « C'est pas nous, c'est l'autre. » Fait que ça, déjà là, moi, ça m'en dit grand sur c'est quoi Santé Québec. Santé Québec a sorti dernièrement, là, on va nommer Santé Québec, mettons, Laval, Santé Québec, Côte-Nord. Mm-hmm. Ça, c'était urgent de faire ça avant même de plus améliorer justement le service à la population. C'est ça que les Québécois, Québécoises veulent. C'est d'avoir un service plus rapide, efficace, puis un bon service. Mais il n'y a pas d'amélioration à cet effet-là. Là. Tant les soins à domicile, on n'a pas plus investi tant que ça à comparer des pays scandinaves, ainsi de suite. Là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Dans les régions, là, parce que je peux parler aussi des régions, là, par contre, dans des régions comme, mettons, la Côte-Nord, on a des dispensaires. Là. J'ai une collègue qui m'expliquait dernièrement que des dispensaires, ben, c'est un centre, tu sais, un peu en urgence pour éviter d'envoyer les patients à l'hôpital. Il manquait de civières, fait qu'ils ont envoyé des civières qu'il y avait dans les morgues, dans d'autres hôpitaux, puis qui sont plus bonnes, là. Fait que au lieu d'acheter. Il manque des glucomètres pour faire le taux de sucre. Puis les vis-à-vis de nos collègues nous ont dit, ben c'est essentiel d'avoir un glucomètre. C'est la base du nursing, là, de pouvoir voir si une glycémie d'un patient va pas bien. Il manque des machines pour faire des électrocardiogrammes, pour voir si un patient est en infarctus. Ils sont fait poser la question, c'est essentiel d'avoir ça. Fait qu'on coupe aussi dans le matériel pour avoir les équilibres budgétaires depuis que Santé Québec est là.
Derek Cyr, président de la Fédération de la santé du Québec, y a-tu quelque chose à faire avec Santé Québec? Puis je m'explique, là en ce moment, on voit bien que tout le monde a un peu de misère à comprendre à quoi ça sert. Ça a-tu rendu au final les affaires juste plus compliquées? Puis y a-tu un potentiel? Est-ce qu'on peut redresser ça pour que le but qui était initial, qui semblait louable, de dire on va séparer ça du ministère de la Santé, puis on va prendre les meilleures décisions à l'externe du gouvernement, puis y a-tu de quoi à faire où on devrait juste mettre la hache là-dedans, là, le prochain gouvernement, puis recentraliser un peu tout ça vers le gouvernement, puis tenter de prendre les meilleures décisions à l'interne, à la place d'avoir Santé Québec qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'enligne?
Ben il y a deux réponses à votre question. La première des réponses que je dirais, c'est que pour moi, il faudrait écouter. Là, je sais que des fois, la CAQ disait tout le temps, les syndicats sont aussi sont ça. Là, on est bien méchants, on a le dos large. Là, mais les syndicats représentent la base. Puis la base est capable de dire ce qui fonctionne pas dans le système. Depuis que Santé Québec est là, on a très peu de rencontres ou de collaboration au niveau national, là, je parle, là, pour justement dire, ben, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que vous voulez amener, voici les pistes de solutions. Mais d'écouter au moins ce qu'on a à dire. Ça veut pas dire que dans le fond, il faut faire tout ce que le syndicat dit, mais des fois, on va dire, ben, si vous allez vers là, vous allez frapper un mur pour telle raison. Mais ça, il y a très peu d'écoute de Santé Québec au niveau national. Fait que je pense que cette première chose-là pourrait aider à peut-être améliorer ce service-là. Puis ça serait de savoir aussi l'imputabilité est à qui. Quand quelque chose fonctionne pas, ben Santé Québec dit que c'est le ministère dit que c'est le ministre dit que c'est Santé Québec. En tout cas, vous voyez que l'imputabilité est très dure à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est qui gère. On le sait, tu sais, comme le dossier de du dossier santé numérique, que ça coûte 100 millions par année à gérer. C'est-tu un futur, ça clique encore? C'est quoi? Puis Santé Québec, c'est-tu lui qui prend la décision, qui impose ça sur la ministre de la Santé? On ne sait pas trop c'est qui prend la décision. Là. Fait que ces volets-là, il faudrait peut-être mieux définir qui prend les décisions, puis de ne pas essayer de standardiser. Santé Québec a beaucoup cette fâcheuse habitude-là de vouloir standardiser une pratique. Il faut comprendre qu'en Gaspésie, les besoins ne sont pas les mêmes qu'à Montréal. Ils sont pas les mêmes qu'à Laval, ils sont pas les mêmes qu'à Québec, sont pas, tu sais, chaque réalité, chaque région est différente. L'autre chose, c'est que depuis que Santé Québec est là, habituellement, chaque région pouvait comme s'entendre sur un fonctionnement. Et là, à toutes les fois, les directions des ressources humaines, le vis-à-vis ou les relations de travail du côté de l'employeur dans une région, doivent toujours valider à Santé Québec avant de signer une entente avec un syndicat local. Et ça, Ça met des délais, ça fait en sorte que ça respecte pas la réalité terrain du milieu de la région qui a des urgences qui ferment. Par exemple, à Forestville, des urgences sont fermées le soir et la nuit, donc le travailleur doit passer jusqu'à faire 45 minutes de plus pour aller dans une urgence. Mais ces réalités-là n'existent pas à Montréal ou à Québec. Les urgences ne ferment pas, mais pour prendre en compte ces réalités-là, et Santé Québec le fait pas. C'est comme déconnecter la réalité de l'ensemble du Québec et des différentes régions qu'on représente.
Vous avez nommé le DSN, le dossier santé numérique. Vous avez posé la question ouvertement. Là, on est-tu en train de préparer un autre ça clique? Dans les dernières heures, il y a des médias qui sont revenus sur le déploiement du DSN. Puis c'est un sondage qui avait été fait par la Fédération des médecins spécialistes du Québec début juin. Puis ce qui ressort beaucoup de la bouche des médecins, c'est que ça devient difficile de se concentrer sur le patient quand on a à gérer le DSN, puis avec le fait qu'on apprend encore à comment jouer dans tout ça. De votre vue à vous, comment ça va l'implantation du DSN?
Il y a des choses qui fonctionnent bien. On comprend là, que de sortir du fax puis toute de cette réalité qu'on avait depuis des années dans le système de santé doit se faire. Mais est-ce que l'autonomie numérique, l'hébergement des données ne devrait pas tout se faire au Québec? Il y a cette possibilité de faire ça. La crainte, c'est justement la vente vers des compagnies d'assurance, vers le pharmaceutique, des données des usagers qui inquiètent beaucoup les représentants, dont notre centrale à la CSQ, là, de savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. On a fait d'ailleurs un lobby day, on a rencontré les partis d'opposition en février dernier, puis c'était un point qu'on soulevait. Il faut faire attention à nos données, puis on dirait que Santé Québec pense que tout va bien, là, parce que vous savez que le Patriot Act aux États-Unis qui permet d'aller voir les données si le président qui est au pouvoir décide de les voir parce qu'il pense qu'il y a une menace. Fait qu'il pourrait aller voir tous les données parce que les logiciels appartiennent à des compagnies américaines, et ainsi de suite. Fait que ça peut être un enjeu. La deuxième des choses, c'est que l'expertise des informaticiens qui travaillent pour le gouvernement du Québec sont tellement sous-payés qu'ils quittent le public pour aller dans le privé, et ça fait en sorte que on a du monde peut-être moins qualifié ou novice. Ça fait en sorte que la capacité du gouvernement du Québec de faire ses propres choses est pratiquement impossible. Donc ça, je représente pas ces travailleurs-là, mais ça serait à revoir les conditions de travail de ces travailleurs-là pour qu'on garde les cerveaux justement au niveau du système public et qu'ils s'en aillent pas tout vers le privé.
Ben justement, terminons avec ça. Le journal qui nous apprenait la semaine passée que des hôpitaux québécois sont toujours très dépendant des infirmières d'agences privées, alors qu'on a mis une date limite qui s'en vient dans quelques semaines à peine, où on avait dit à cette date-là, on va avoir sorti le privé de nos hôpitaux. Puis là, on se rend compte que ce ne sera pas possible, mais pas en tout, particulièrement dans certaines régions. C'est-tu vraiment réaliste de penser qu'on peut sortir le privé du public?
Ça dépend de la volonté politique du gouvernement qui est en place ou qui sera en place en octobre. On ne sait pas s'il y aura un nouveau gouvernement, on verra. Mais la date limite pour les régions là, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, là, qui sont plus des régions éloignées, est le 18 octobre 26. En octobre 25, qui devait les éliminer dans les régions de Montréal, Laval, de toute la périphérie, Québec, ainsi de suite. Ce qui a été fait en majorité, il y a des décrets lorsqu'il y a un bruit de service de qui peut être demandé par les PDG pour avoir des agences pendant un laps de temps pour qu'il n'y ait pas de bruit de service. Mais je peux vous dire pour les collègues de Laval, depuis février passé, il n'y en a plus d'agences du tout. Fait que ça dépend des régions. Par contre, quand on parle de la Côte-Nord, de la Gaspésie, mais surtout, mettons, la Côte-Nord, il y a des unités qu'il y a 6-7 agences sur 10 travailleurs sur un corps de travail. Fait que là, on est dans une réalité qui va être difficile. Je pense qu'il doit y avoir une campagne de séduction qui doit être faite pour les agences, parce qu'on sait que si vous parlez de Laval tantôt, il y a 78 agences de la catégorie 1, là, soit infirmiers, infirmières visuelles ou inhalo, qui ont été engagées dans le processus de séduction. Fait qu'il y a une volonté de certaines personnes qui travaillent pour les agences de venir dans le système public, mais est-ce que ça peut se faire aussi drastiquement dans les régions? Non, parce qu'il y en a encore, il y a une utilisation encore plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. C'est quelque chose qu'on intervient d'ailleurs auprès de Santé Québec et le ministère. Puis on dirait qu'ils attendent le mois d'octobre pour réagir là.
Derek Cyr, président de la Fédération de la santé du Québec, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Au plaisir.
Ça fait un plaisir. Bonne fin de journée.
Bye-bye. Au retour, l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, nous apprend ce matin que les subventions du gouvernement du Québec aux entreprises coûtent 945 $ par contribuable et que le Québec pourrait offrir les taux d'imposition des entreprises les plus bas en Amérique du Nord simplement en remplaçant les subventions versées par des baisses du taux d'impôt des sociétés. On en parle avec Renaud Brossard, qui est vice-président aux communications à l'IEDM. 10h56, dans le Point de Max, 88 971 1021 si vous voulez nous écrire. Le Point de Max.